Jambes lourdes, gonflement, fourmillement, sensation de pesanteur surtout le soir, vous souffrez peut-être du syndrome des jambes lourdes ou d'insuffisance veineuse.
En France, près de 18 millions de personnes sont concernées, majoritairement des femmes. En cause, un mauvais retour du sang vers le cœur. Les veines se dilatent, le sang stagne dans les jambes, favorisant lourdeur, édème ou varices.
Chaleur, station debout prolongée, piétinement, certains facteurs aggravent fortement les symptômes. Alors, comment fonctionne notre système veineux? Pourquoi les varices apparaissent-elles?
Sont-elles seulement inesthétiques ou parfois dangereuses? Et surtout, comment soulager et prévenir les jambes lourdes? Les réponses et les conseils de votre invité.
Je suis Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV.
À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV.
Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
Paul Pitaluga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue, spécialisé justement dans le traitement des varices et de la maladie veineuse chronique. Alors, on est bien d'accord, il y a deux systèmes vasculaires. Il y en aurait trois, mais deux importants, on va dire. Les artères et les veines. Alors, pour le système artériel, on comprend le sang oxygéné propulsé par le cœur, dans les artères, pour irriguer les organes. Mais le sang veineux, comment est-ce qu'il remonte?
Alors, déjà, du sang veineux, il y en a un peu partout. Mais la particularité du sang veineux des jambes, c'est que, comme on vit debout, sur deux pattes, il faut que ça remonte contre la pesanteur. Donc, c'est un peu plus difficile... au niveau des jambes pour le sang de remonter. Et en fait, la pompe qui fait remonter le sang dans les veines, ce sont les muscles du mollet. D'où l'importance de l'activité physique, puisque c'est par la contraction essentiellement des muscles du mollet que le sang va être repoussé vers le haut. Pourquoi vers le haut et pas vers le bas? Parce que dans les veines des jambes, il existe des valves anti-reflux qui permettent, donc qui sont unidirectionnelles, qui permettent au sang de remonter vers le cœur et de ne pas retomber vers les pieds. Donc à chaque compression musculaire, vous avez une expulsion de sang vers le haut. Et c'est le fait d'avoir des mouvements réguliers des muscles du mollet qui crée une pompe qui va permettre le drainage.
Et la respiration aide un peu aussi?
Il y a un petit effet, il y a deux effets en plus. Il y a l'effet de vis à tergo, donc qui est un effet aspiratif du cœur quand il se remplit. Et il y a aussi un petit effet de chasse plantaire quand on appuie la voûte plantaire sur le sol. Mais il faut retenir, pour être simple, qu'essentiellement, ce sont les muscles du mollet qui constituent la pompe qui va permettre le bon drainage du sang veineux dans les jambes.
Quand est-ce qu'on parle du syndrome des jambes lourdes? Est-ce que c'est la même chose que l'insuffisance veineuse?
Alors, pas vraiment. Les jambes lourdes, c'est un peu comme le mal au dos. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très courant, ouais, qui peut toucher tout le monde, qui n'est pas forcément lié à une insuffisance veineuse. Par exemple, et c'est le cas le plus fréquent, toutes les personnes qui sont en surpoids ont mal aux jambes et ont des symptômes qui ressemblent à l'insuffisance veineuse. Tout le monde fait aussi l'expérience d'avoir les jambes lourdes quand on est resté longtemps debout à piétiner parce qu'on attend quelqu'un, parce qu'on visite un musée, parce que... Voilà. Donc les jambes lourdes, c'est un symptôme qui n'est pas spécifique, mais qui existe évidemment dans l'insuffisance veineuse.
Alors vous évoquiez tout à l'heure des valvules qui empêchent le reflux, donc la redescente liée à la pesanteur. Pourquoi ces valvules, un jour ou l'autre, font plus leur travail?
C'est la grande question. Il y avait plusieurs théories pendant un certain nombre d'années. La première théorie, c'était un affaiblissement des valvules elles-mêmes, hein, dont la qualité se dégradait.
Ça vieillit comme le corps.
Exactement comme tout dans le corps. Et il y a un moment ou un autre, elle ne retenait plus le sang. Et il y a une deuxième théorie qui a pris le dessus au fur et à mesure des études, en particulier grâce à l'échographie, l'échographie, où en fait, c'est une fragilité de la paroi, au départ, qui va se dilater et écarter les valvules. Et c'est le phénomène initial qui provoque en fait le reflux du sang.
Comment on arrive au diagnostic d'insuffisance veineuse?
Alors, c'est d'abord...
Vous avez dit l'écho-Doppler?
Vous savez, dans la médecine, il y a trois étapes essentielles. Il y a l'interrogatoire. L'interrogatoire est vraiment quelque chose d'important parce que ça oriente vers le diagnostic. L'examen clinique, donc on examine son patient, et en troisième lieu, un examen instrumental, hein, ce qu'on appelle un examen complémentaire. Et dans le cas de l'insuffisance veineuse, c'est l'examen écho-Doppler. C'est vraiment ça l'élément central qui permet de déterminer s'il existe ou non une insuffisance veineuse.
On voit les veines, on voit les valvules, on voit quoi avec l'écho-Doppler?
Écho-Doppler, donc c'est deux mots, c'est échographie qui permet d'identifier les structures anatomiques, donc la veine, les veines, et Doppler, qui est un phénomène physique d'enregistrement du mouvement. Donc c'est typiquement le phénomène acoustique de l'ambulance qui passe de derrière à derrière en avant, et on entend la différence de son. Et on, avec l'échographie, on repère la veine qu'on veut tester, on met la sonde Doppler à l'intérieur, et à ce moment-là, avec un mouvement de compression du mollet, on crée une ascension du sang, et quand on relâche, on regarde si ce sang est retenu par la valve ou pas. C'est assez simple comme examen.
À quel point c'est plus fréquent chez les femmes ?
Alors, en fait, c'est pas connu ça, mais au-delà de 60 ans, il y a autant d'hommes que de femmes qui ont des varices. Donc c'est une fragilité des tissus qui est héréditaire en fait, et qui émerge un jour ou l'autre. Les femmes en souffrent plus tôt par les phénomènes hormonaux. Hein, y a des récepteurs œstrogène progestérone dans la paroi des veines qui les font se dilater. Et sur une paroi fragile, cette dilatation elle va être délétère. Donc il y a des femmes qui sont très sensibles à chaque cycle. Au début du cycle, il y a un pic d'œstrogène qui fait dilater les veines. Les femmes moins sensibles, pendant la grossesse, elles vont être inondées d'œstrogène progestérone, donc leurs veines vont se dilater. Certaines vont régresser, puis certaines resteront définitivement dilatées. Donc elles ont des varices qui apparaissent plus tôt. Et également, elles en souffrent plus. C'est-à-dire que les hommes peuvent avoir des varices, mais ils ont moins les jambes lourdes, des symptômes liés aux varices, là aussi à cause de la congestion liée aux hormones féminines.
Vous avez cité un mot très important, vous avez dit héréditaire. Ça veut donc dire que si on regarde ses parents, on sait si on va avoir des varices ou pas ?
Alors, pas forcément les parents, c'est ça qui est compliqué. Et puis on ne connaît pas forcément ses vrais parents. Donc quand on interroge les gens, il y a à peu près, il y a plus de 80% des gens qui connaissent un ascendant ou un collatéral qui a des varices. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas toute leur famille et qui ne connaissent pas donc leurs ascendants, mais c'est toujours héréditaire.
C'est important de préciser ce qu'on entend par varices, parce qu'avant de préparer ce podcast, je pensais que c'était uniquement ce qui se voyait.
Alors, c'est souvent ce qui se voit, parce qu'une varice, c'est quoi en fait ? Une varice, c'est une branche de la veine principale, peut-être on l'expliquera après, qui est dilatée, et souvent cette branche est sous la peau, donc on la voit. Mais chez les gens qui ont un surpoids ou pour des branches qui sont un petit peu plus profondes, c'est la palpation qui permet de les détecter. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais en examinant le patient debout, toujours examiner son patient debout pour que les veines soient remplies, on peut la dépister. Ou bien l'échodoppler qui permet de la voir pour que quelque chose n'arrive pas à palper ou à voir.
Donc ça veut dire qu'il y a un système superficiel et un système profond ?
Alors, le système superficiel et le système profond, c'est deux écosystèmes totalement différents. On s'est trompé là-dessus pendant longtemps d'ailleurs. Le système profond, c'est le drainage des muscles, des os et enfin, des tissus qui sont en dessous de la peau névrose musculaire, autour des os en gros, au niveau des jambes. Et le système superficiel, c'est le tissu sous-cutané, donc entre la peau névrose musculaire et la peau. Et dans le système superficiel, vous avez un axe de drainage principal qui s'appelle la veine saphène, qui repose un peu contre le muscle, qui est un peu plus profond. Et dans cette veine saphène se drainent des branches qui, elles, sont sous la peau. Et ce sont les branches qui sont dilatées qui donnent les varices que l'on voit ou que l'on palpe.
Il y a d'autres facteurs favorisants. On évoquait le côté héréditaire, mais je pense qu'il y a plein de facteurs favorisants qui vont maltraiter ces veines superficielles.
La chaleur, on dit ?
La chaleur, tout ce qui... En fait, c'est assez simple à comprendre, hein, c'est mécanique. C'est tout ce qui va faire dilater les veines. Chaleur. Hein, le système veineux superficiel, comme tous les systèmes dans tout le corps, c'est une thermorégulation. Ça agit dans la thermorégulation, donc ça se dilate, ça se contracte. Donc la chaleur fait dilater les veines beaucoup. La position debout prolongée, ça fait dilater beaucoup. Les hormones, on en a parlé, ça fait dilater beaucoup. Donc c'est les trois principaux éléments qui provoquent une dilatation des veines par un effet extérieur et qui, sur des veines fragiles, peuvent être délétères.
En quoi consiste la prise en charge ?
Alors la prise en charge, en premier, c'est un diagnostic. Donc c'est l'interrogatoire, on en a parlé, l'examen, l'échodoppler, qui va permettre d'avoir un diagnostic précis. Ce qu'il faut dire et répéter, c'est que chaque personne qui présente une insuffisance veineuse est un cas particulier. Pourquoi ? Parce que le réseau veineux, c'est très riche, c'est très différent. Enfin, globalement, il y a une anatomie qui est à peu près identique, mais c'est quand même très variable. Et l'atteinte sur ce réseau est différente d'un patient à l'autre. Et la conséquence de cette atteinte sur le réseau veineux, en particulier sur la veine saphène, qui est la veine superficielle principale, est différente d'un patient à un autre. Donc ça doit être une exploration qui est personnalisée. Pourquoi ? Parce qu'on va établir une stratégie personnalisée. S'il y a vraiment un message à faire passer, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des symptômes, en fin de compte? Parce que c'est une esthétique, on l'a dit, parce que ça se voit, ça se dilate, c'est pas beau. Est-ce qu'il y a des symptômes et est-ce que ces symptômes sont graves?
On a parlé d'un symptôme déjà, hein, la jambe lourde. Les jambes lourdes, après il y a l'inconfort, ça peut donner des démangeaisons, ça peut donner des impatiences, ça peut donner des crampes nocturnes. Les varices elles-mêmes, quand elles sont très congestionnées sous la peau, elles peuvent faire mal. Donc ça peut être vraiment très très gênant au quotidien. Ça peut ce qu'on appelle obérer la qualité de vie. Et puis ça donne des complications, puisque la première complication, on n'en parle pas assez. La première complication, la complication la plus fréquente des varices, c'est la thrombose. Une varice est une veine dans laquelle le sang reflue, stagne, et du sang qui stagne fait du caillot. Donc c'est la première raison pour traiter des varices. Le patient qui a des varices est un patient à risque de phlébite. Ça, c'est vraiment un élément important.
Et comment vous traitez, justement ?
Alors le traitement, c'est un traitement, enfin, d'ablation des veines malades. Mais dans cette idée d'ablation des veines malades, il faut établir une vraie stratégie. Pourquoi ? Parce que l'insuffisance veineuse est une maladie chronique. Comme toute maladie chronique, on n'en guérit pas. C'est une maladie qu'on va gérer. Et si on tape très fort d'emblée, on ne va pas avoir une stratégie qui va être à long terme. Tous les patients qui ont des varices, et surtout les jeunes, il faut établir une stratégie personnalisée à long terme. Donc en ayant une stratégie précise sur ce qu'on va traiter, sur ce qu'on va supprimer. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert qu'il y avait un certain nombre de veines qui pouvaient récupérer un rôle de drainage, donc de faire remonter le sang, alors qu'elles étaient en train d'être abîmées, et en particulier la veine saphène qui est la veine principale, et que c'était délétère quelque part de les enlever trop tôt, parce qu'on va appauvrir le réseau veineux, et donc il y a une vraie stratégie à long terme de respect du capital veineux pour pouvoir traiter les choses et avoir les meilleurs résultats. Bon résultat des varices, c'est pas à 6 mois, 1 an, à 2 ans, c'est à 10 ans, à 20 ans.
Donc ce que vous dites, c'est que ça peut être réversible avec certaines mesures ?
Absolument. Le drainage veineux dans la veine principale, la veine saphène, peut être réversible si on a la bonne stratégie.
Et c'est quoi la bonne stratégie alors ?
La bonne stratégie, c'est de faire c'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que le traitement traditionnel, c'est on fait un échodoppler, on se focalise uniquement sur la veine saphène. La veine saphène, c'est l'axe principal dans lequel toutes les petites branches qui sont sous la peau se drainent. Si cette veine saphène est atteinte, on la supprime. On la supprime par le stripping, qui est la technique un peu agressive et ancestrale, mais qui a été la référence.
Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrache carrément...
On arrache la saphène. Alors aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, c'est un peu barbare. On a mis au point des techniques endovéneuses où à travers la peau, on rentre dans la saphène un élément chauffant, le laser par exemple, ou la radiofréquence. On peut mettre de la colle, on peut mettre de la mousse chimique, mais c'est toujours sur la base de la suppression de la saphène. Donc quand on a ce raisonnement binaire, reflux saphène à l'échographie, destruction de la saphène, c'est simple. Mais quand on a une stratégie personnalisée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut déterminer à quel stade le patient est et qu'est-ce qu'il faut enlever et à quoi il faut limiter la résection des veines pour rétablir un flux normal dans cette veine saphène et permettre de conserver cette veine principale.
À partir de quand il faut consulter ? Quand on est gêné au quotidien ou...
En réalité, dès qu'on a un doute, soit parce qu'on a des symptômes, soit parce qu'on a des choses qui se voient. Et un examen échodoppler, ce n'est pas très compliqué à réaliser. Et on va voir tout de suite...
On va voir un angiologue ?
On va voir un angiologue, un chirurgien vasculaire, quelqu'un qui fait des échodopplers veineux. Et on va voir tout de suite s'il y a effectivement une insuffisance veineuse et à quel stade de cette insuffisance veineuse on est et quelle est la meilleure stratégie de traitement.
Alors justement, on parlait de stratégie, il y a un mot qui vient souvent, c'est le bas de contention, qu'on utilise même si on prend l'avion et même si on n'a pas d'insuffisance veineuse chronique. Ces bas de contention, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'il faut les mettre systématiquement ? Est-ce qu'il faut mettre des mi-bas qui s'arrêtent sous le genou ? Est-ce qu'il faut mettre des bas entiers ? Quelle est la bonne stratégie ?
Le bas de contention, je vous dirais que c'est toujours utile, tout le monde doit le mettre tout le temps. C'est pas la réalité.
Même quand on n'a pas d'insuffisance veineuse ?
Même quand on n'a pas d'insuffisance veineuse, parce que quand on piétine, on a mal aux jambes. Et donc, alors, la réalité, c'est pas ça. Si vous dites à quelqu'un, vous mettez vos bas tous les jours, du matin au soir, y compris juin, juillet, août, personne ne va le faire. Donc, il faut avoir là aussi un discours intelligent. Il faut expliquer à quoi ça sert. Ça sert à quoi ? Ben, à éviter le reflux et à lutter contre la gravité et la congestion, puisque ça comprime les veines. Il faut les mettre dans les moments où on est le plus à risque de souffrir de congestion, donc les transports, les piétinements, Le premier facteur risque pour développer des varices, c'est le piétinement au travail. Donc tous les métiers, on piétine beaucoup, on devrait mettre
des bas. Assis, c'est moins pire ?
Assis, c'est un peu moins pire, mais c'est quand même bien de mettre une contorsion. Le moment où il faudrait le mettre vraiment, c'est l'été, mais personne ne le fait. Donc à ce moment-là, prendre un traitement vénonique peut aider. Et puis la question du bas ou sous le mollet, sous le genou ou, ou jusqu'à la cuisse, ça dépend d'où sont les varices. La compression, elle se fait essentiellement sous le genou, parce qu'il y a deux axes osseux, et donc là, il y avait une vraie efficacité. Au niveau de la cuisse, il n'y a pas tellement d'efficacité. Par contre, si vous avez des varices qui parcourent toute la jambe, du mollet à la cuisse, là, il faut éviter de mettre une chaussette qui va couper la varice, il vaut mieux mettre en bas.
Et le drainage lymphatique, c'est utile ?
Alors, le drainage lymphatique, c'est utile quand il y a un œdème lymphatique. Donc, l'œdème lymphatique est très spécifique, c'est un œdème qui fait gonfler le pied, contrairement à l'œdème veineux. Mais en réalité, il y a souvent une association des deux parce que la congestion veineuse déborde sur le réseau lymphatique et peut provoquer un œdème lymphatique. Et quand il y a un œdème lymphatique, ça, médicalement ça se voit, hein, c'est le pied et les orteils gonflés, le drainage lymphatique est extrêmement efficace. Quand il est répété, il faut faire 20 séances au minimum.
Donc ce n'est pas un phénomène de mode ?
Non, non, quand c'est bien fait, alors ça, encore, ça, comme tout, hein, c'est praticien indépendant, ça doit être quelque chose de très très doux, c'est une caresse le drainage lymphatique, on ne doit pas appuyer, ça ne va pas faire mal. Et on ouvre en premier les ganglions lymphatiques, au pli de l'aine et dans le creux du genou, avant de provoquer une espèce de caresse cutanée qui va stimuler l'ouverture des lymphatiques en distalité.
Et puis vous avez évoqué l'activité physique, c'est un vrai traitement ?
Alors l'activité physique, c'est un traitement pour la santé en général. L'activité physique, c'est bon pour tout, y compris pour les veines. C'est très très simple à comprendre. Hein. Quand vous avez une activité physique, vous avez une activité des muscles du mollet, vous drainez le sang, vous évitez la stagnation et vous améliorez la tonicité de vos veines.
Puis un dernier petit mot peut-être sur la chirurgie, parce que vous avez évoqué la chirurgie assez traditionnelle, qui est en fait d'aller arracher la veine, arracher au sens où on l'enlève tout simplement. Okay. Et puis vous avez des techniques que vous utilisez vous d'ailleurs, qui sont des ablations plus sélectives de ces varices. Comment ça fonctionne ça ?
Alors ça c'est quelque chose que j'ai développé depuis 2005, donc 20 ans. Ça s'appelle la méthode ASVAL, c'est l'ablation sélective des varices varicelles locales. Le principe c'est quoi ? C'est d'essayer de limiter... ce qu'on va retirer aux veines strictement malades, donc aux branches, parce qu'on s'est aperçu que ce sont ces branches qui abîment la saphène par un effet de siphonnage, et jusqu'à un stade assez avancé, quand on enlève ces branches, on récupère un drainage dans la veine saphène, ce qui a l'immense avantage de préserver la voie de drainage principale. Quand vous l'enlevez, le flux va se répartir sur les petites branches et parfois, vous allez déséquilibrer un système, voire aggraver la situation. Donc c'est vraiment une stratégie qui est très personnalisée, qui est un peu plus complexe au niveau de l'indication, au niveau de l'exploration et même au niveau de la réalisation, puisque c'est des micro-incisions qui permettent d'enlever ces branches.
Une petite question que tout le monde se pose, les médicaments, les phlébotoniques, les vénotoniques, ça sert vraiment à quelque chose ?
Oui, j'insiste, il y a énormément d'études qui montrent l'intérêt des vénotoniques, surtout celles d'un certain nombre, que je ne citerai pas, mais qui sont efficaces sur l'inflammation de la veine et la tonicité de la veine. Oui, ça marche.
Merci beaucoup Paul Pitaluga. On rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue spécialisé dans le traitement des varices.
Merci à vous.
Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.